Peur, de Gabriel Chevallier. Scène mémorable. Adaptation radiophonique et réalisation, Michel Sidorov. Deuxième épisode, qu'est-ce qu'on fait là ?
Nous montâmes en ligne au début de septembre, par un soir calme et assez frais. Le système de tranchées s'étendait sur une profondeur de 8 à 10 km. Mais nous y errâmes toute la nuit, nos sacs sur le dos, la tête de la colonne s'égarant constamment aux innombrables bifurcations qui s'ouvraient devant nos guides. Nous dûmes plusieurs fois revenir sur nos pas et attendre que des éclaireurs eussent fini d'explorer ce labyrinthe silencieux et désolé, où ils s'égaraient à leur tour. Derrière nous, des fractions avaient disparu, par la faute d'hommes qui s'étaient laissés distancer de quelques mètres, avaient perdu de vue celui qui les précédait et s'étaient engagés dans une mauvaise direction.
À droite ! Marche !
Une nuit où nous approfondissions un boyau, sans même distinguer l'endroit où portaient nos coups, une pioche pénétra dans la terre avec un bruit flasque, comme si elle avait crevé quelque chose. Elle venait de fouiller un ventre, humide et pourri, qui nous lâcha à la face ses miasmes en une poussée de gaz brusquement détendue. Une puanteur envahit la tranchée, nous mit sur la bouche un irrespirable tampon, nous planta au bord des paupières des aiguilles empoisonnées qui nous tirèrent des larmes. Ce geyser pestilentiel sema la panique parmi les travailleurs, qui désertèrent en hâte ce coin maudit. Il fallut que les gradés nous ramenassent de force vers ce mort irrité, sur lequel on pelleta avec fureur pour le recouvrir et le calmer. Mais nos corps avaient flairé l'odeur horrible et féconde de la pourriture, qui est vie et mort, et longtemps cette odeur picota nos muqueuses, fit sécréter nos glandes, réveilla en nous quelques secrètes attirances organiques de la matière pour la matière, même corrompue et près de s'anéantir. Notre pourriture promise, et peut-être prochaine, communia dans cette pourriture puissante, à son apogée, qui domine l'âme livide et la chasse. Je songeais à la destinée de cet inconnu, que nous venions de troubler dans sa tombe, et que d'autres piétineraient encore. J'imaginais un homme pareil à moi, jeune, plein de projets et d'ambitions, à peine dégagé de l'enfance et sur le point d'entreprendre. 20 ans d'études, de subordination, de désir et d'espoir, cette somme de sentiments qu'un être porte en lui et qui font sa valeur, avait trouvé dans ce coin de boyau leur aboutissement. Je découvris pour la première fois une grande étendue de front le 15 août 1915. À quelques kilomètres en avant de notre village se trouvait une colline, nommée le Mont Saint-Éloi. Sur cette colline s'élevait un monument, une église, entamée par les obus et dont l'accès était interdit, comme dangereux. Mais, curieux de voir, je réussis à m'y glisser avec Bertrand et nous montâmes dans l'une des tours par un escalier de pierre, branlant par endroits et encombré de matériaux qui s'étaient détachés des murailles, lézardés par le bombardement.
C'est la plaine d'Artois devant nous.
On devine rien de la bataille.
Quand même, regarde. Les petites fumées blanches. Tu n'entends pas les détonations ?
Si, bien sûr, j'entends. Et je vois tout ça. On ne voit aucune trace des armées qui se détruisent dans cette espèce de silence. Si, peut-être les remblais, qui forment des réseaux. Ce sont les tranchées. Oui, mais tout cela paraît si fragile. On a l'impression que n'importe qui peut les enjamber.
Je ne m'attendais pas à quelque chose de si calme. Tout le paysage a l'air de cuire au soleil.
J'ai pensé plus tard que les généraux, qui n'avaient ni veillé au créneau ni affronté un réseau de barbelés sous les tirs des mitrailleuses, pouvaient en effet voir les tranchées comme nous les vîmes alors, avec nos yeux de novices, et se faire les mêmes illusions. Ces illusions semblent avoir décidé de la meurtrière et inutile offensive à laquelle j'ai pris part. Peu après, on nous affecta à une unité combattante. La zone active, la zone aux aguets. Elle avait l'atmosphère plus tiède des lieux qui sont habités. Il y flottait la pénétrante odeur des corps, un mélange de fermentation et de déjection, et celle des nourritures aigries. Les premières balles perdues commencèrent de sillonner l'air, mais on distinguait à peine les coups de fusil. Des obus passaient, comme des vols de gros oiseaux très hauts, pour aller tomber dans quelques bas-fonds où ils éclataient sourdement. En première ligne, on ne rencontrait que des hommes boueux, aux gestes lents de paysans, pleins de précautions et rogues. Ils demeuraient des heures entières derrière un créneau, sans parler, fumant la pipe et répondant par des injures aux éclatements proches. J'étais étonné de me trouver au centre de la guerre et de ne pas la découvrir, ne pouvant admettre qu'elle consistât dans cette immobilité. Pour voir, me haussant sur une banquette de tir, je passais la tête au-dessus du parapet. À travers l'embrouillement des barbelés, on apercevait à moins de 100 mètres un talus semblable au nôtre, silencieux, comme abandonné, crénelé pourtant d'yeux et de lignes de mire qui nous surveillaient. Je n'eus pas le temps de voir en détail.
Si tu veux absolument faire un macabre, patiente un peu, les occasions ne te manqueront pas. Mais ne fais pas repérer les copains.
Mais...
Pour Berlin, mon gars, c'est tout droit. Y a pas à se tromper.
La nouvelle classe s'en ressent, faut croire, pour gagner la guerre.
Ah là là, on les verra bientôt se dégonfler, les conscrits.
Je m'abstins désormais d'observer autrement que par l'étroite lucarne d'un créneau, masquée de maigres herbes grises qui arrêtaient le regard à quelques mètres. Au lieu de l'armée ennemie, je n'apercevais que de rares sauterelles et des fourmis qui fréquentaient seules l'étendue interdite aux hommes.
Fritz se chargera de te mettre du plomb dans la cervelle.
Nous reçûmes nos premiers obus. Les journées étaient encore chaudes. Nous nous installions l'après-midi sur les décombres devant notre cave. Le torse nu, nous visitions notre linge afin de tuer les poux qui nous dévoraient et qu'entretenaient les pailles pourries, mêlées d'épluchures sur lesquelles nous dormions. Cette chasse faisait partie de nos travaux les plus urgents. Nous y consacrions une heure de notre repos et une grande attention dont dépendait notre sommeil. Un jour, au milieu de cette occupation, un gros fusant éclata juste au-dessus de notre escouade, nous enveloppa de son haleine chaude et de sifflements stridents. Les éclats crépitèrent, sans nous atteindre, par miracle. Cela me fit l'effet d'un coup sur la nuque, et ma tête résonna d'une vibration métallique douloureuse, comme si on m'eût foré la boîte crânienne. Nous avions sauté dans la cave, par réflexe, trop tard déjà. Nous ramassâmes ensuite des débris de fonte encore brûlants, et la façon dont ils étaient fichés dans la terre me donna une idée de leur force. Une autre fois aussi, nous supportâmes un tir très violent. Tout l'après-midi, nous avions travaillé imprudemment dans une parallèle, en rejetant la terre sur le parapet. Le soleil venait de disparaître, il régnait sur le champ de bataille un calme d'angélus, et nous attendions la section de relève en roulant des cigarettes. Les obus ravagèrent ce silence en un instant. Je vis mes camarades pâles, les yeux fous, se bousculer et s'amonceler pour ne pas être frappés seuls, secoués comme des pantins par les sursauts de la peur. Dans cette tourmente, je fus soutenu par ma raison, qui d'ailleurs s'exerçait à faux. Je ne sais où j'avais pris cette théorie que les canons de campagne avaient une trajectoire très tendue. Dès lors, des obus nous arrivant de face ne pouvaient tomber dans la tranchée, et il ne s'agissait que de résister à leur fracas impressionnant. Cette sottise me tranquillisa et je souffris moins que les autres. Enfin, la relève arriva. Mais le tir nous poursuivit, nous courions et je me trouvais le dernier dans la section. Des obus passèrent très bas au-dessus de moi et éclatèrent en avant. Au premier détour, je tombai sur deux hommes étendus dans leur sang, qui avaient, pour appeler, ces visages d'enfants battus et suppliants qu'on voit aux êtres que le malheur vient de frapper. et j'enjambais en frissonnant leurs cris affreux. Ne pouvant rien pour eux, j'accélérais ma course pour les fuir. Devant les abris, on répétait leurs noms, Michard et Rigaud, deux jeunes de notre classe que nous connaissions. La guerre cessait d'être un jeu. J'eus un étrange réveil le lendemain. Un monstre métallique me frôlait, menaçant de me broyer. Je vis d'énormes bielles et je reçus un jet de vapeur. J'étais étendu sur le ballast d'une voie ferrée, un train blindé me passait à côté de la tête. Je me souvins que j'avais quitté la colonne pendant la marche de nuit et terminé l'étape sur un fourgon. Arrivé après les autres, ne sachant où m'abriter, je m'étais couché sur la voie, sous un pont qui me protégeait de la pluie, sans penser qu'une locomotive pût venir jusque-là. La journée se passa dans une attente anxieuse, sans nouvelles. Des bruits circulèrent. L'attaque avançait, l'artillerie était attelée, poursuivre. Le soleil se montra quelques heures et se voila tristement. Notre ignorance nous désespérait. Notre immobilité semblait de mauvais augure. Déjà, nous savions bien que nous n'irions pas à Douai si facilement. On nous distribua des grenades du genre raquette. Une boîte en fer blanc fixée sur une plaque de bois qu'on amorçait en tirant sur une ficelle, terminée par un anneau de rideau. Cet anneau échappait aux clous qui le retenaient et se balançait librement. Une telle invention m'effraya et je refusais de toucher aux deux engins que me tendait le caporal. Il prit le parti de les assujettir lui-même au sommet de mon sac, sur la couverture. Enfin, nous nous portâmes en avant. Après le mont Saint-Éloi, le champ de bataille, noyé de brume et de fumée, dévalait devant nous en pente douce. On distinguait au loin des flammes rouges, et l'on entendait la rumeur terrible, trouée par les mitrailleuses diaboliques. La vue des blessés nous assombrit encore.
Grand, les enfants. Il paraît que le casque protège et a déjà sauvé la vie à beaucoup d'hommes.
C'est tout ce qu'ils trouvent à nous dire.
Je parais que les gradés hésitent encore sur l'attaque. Au fond, là-bas, dans le brouillard, j'ose pas imaginer ce qui nous attend.
Peu après, les obus éclatèrent en avant de la colonne.
Dans les voyons ! En avant, dans les voyons !
Poulet à pied ! Il y en a qui savent y faire au bon moment.
Nous croisâmes des unités qui retournaient vers l'arrière. Ces rencontres étaient un supplice, dans les boyaux trop étroits pour que deux hommes s'y tinssent de front.
Fais gaffe. Attention. Attention. N'arrête pas de s'accrocher. Bon sang. Les grenades là-haut sur mon sac. Si l'anneau d'une ficelle se prend au fusil d'un de ces gars que nous croisons, c'est fini. Tout explose.
Allez.
Tu vas voir où va rouler ta tête tout à l'heure. Croisâmes des tombereaux étranges, pleins de débris raidis qui se découpaient sur la nue et que nous reconnûmes en frissonnant.
Les macabres.
C'est bien organisé, la section des corbillards.
Section, halte ! Repos.
Putain, tout est en ruine dans ce village.
Caporal, c'est les Boches qui ont rasé tout ça?
À ton avis, qui tu veux que ce soit?
À savoir, les obus viennent des deux côtés.
Hey, nous serons à l'abri dans cette cave.
Ça n'a pas l'air de marcher, cette attaque.
C'est toujours la même connerie.
Frère, il faut mourir.
Personne n'est touché?
Non, ça va.
Non, personne, ça va.
Tenez-vous prêts! Où va-t-on?
On ne dormira pas cette nuit. En avant!
Allez, en avant!
Attention!
On se jeta dehors en tombant, en s'accrochant, en criant. On se jeta dans la nuit froide, sifflante, dans la nuit en déflagration, la nuit pleine d'obstacles, d'embuscades, de tronçons et de clameurs. La nuit qui cachait l'inconnu et la mort, rôdeuse muette aux prunelles d'éclatement, cherchant ses proies terrifiées. Des êtres abandonnés, entamés, étendus quelque part, de notre régiment peut-être, hurlaient comme des chiens malades. Mon sac m'étouffe. Et ce fusil qui ne sert à rien, il tombe tout le temps. Une baïonnette qui m'empêche de courir vite et menace de me blesser. Nous courions, nous guidant sur un dos. Les yeux dilatés mais prêts à se fermer pour ne pas voir le feu, à se fermer sur la pensée recroquevillée, qui refuse sa fonction, qui voudrait ne pas savoir, ne pas comprendre, qui est un poids mort pour la carcasse qui bondit, cravachée par les lanières tranchantes de l'acier, qui fuit le knout plombé rugissant à ses oreilles. Nous courions comme des brutes, non plus des soldats, mais déserteurs, dans le sens de l'ennemi, résonnant intérieurement de ce seul mot « assez ». À travers les maisons titubantes, soulevées et retombant en poussière sur leurs assises. Une salve monta de la terre comme un volcan. La panique nous botta les fesses. Nous franchîmes comme des tigres les trous d'obus fumants, dont les lèvres étaient des blessés. Nous franchîmes les appels de nos frères, ces appels sortis des entrailles. Nous franchîmes la pitié, l'honneur, la honte. Nous rejetâmes tout ce qui est sentiment, tout ce qui élève l'homme, prétendent les moralistes. Ces imposteurs qui ne sont pas sous les bombardements et exaltent le courage. Nous fûmes lâches, le sachant et ne pouvant être que cela. Le corps gouvernait, la peur commandait. Nous nous laissâmes glisser à terre, complètement épuisés, pour épaissir encore l'ombre au-dessus de nous, comme des enfants qui se cachent. Nous entendions sauter les maisons à 500 mètres, ne comprenant pas comment nous avions pu nous sauver, accablés de l'horreur de ces bombardements contre lesquels il n'y a pas de défense. Nous hésitions entre une inutile révolte et une résignation de bête à l'abattoir.
Faites passer au capitaine. 10 blessés à la 3e section, 6 à la 2e et une mitrailleuse hors d'usage.
En avant !
La fatigue, la lutte que le fantassin doit soutenir contre sa charge qui l'étreint et l'épuise, nous empêchait de penser. Nos dernières forces étaient concentrées dans les muscles des épaules et du cou. Ces boyaux ne finiraient donc pas. Nous redoutions pourtant qu'ils prissent fin. Nous nous dirigions vers un but que nous n'étions pas pressés d'atteindre. Chaque mètre parcouru, chaque effort arraché à notre épuisement, nous enfonçait plus profondément vers le danger. Rapprochait de leur terme un grand nombre de destinées. Qui serait frappé? L'aube se dégagea enfin de sa couverture de nuages gris et humides. Une aube livide et silencieuse, découvrant un désert terne et brumeux. Subitement, Le soldat qui me précédait s'accroupit, se traîna sur les genoux pour passer sous un encombrement de matériaux. Je m'accroupis derrière lui. Quand il se releva, il démasqua un homme de cire, étendu sur le dos, qui ouvrait une bouche sans haleine, des yeux sans expression, un homme froid, raidi, qui avait dû se glisser sous cet illusoire abri de planches pour mourir. Je me trouvais brusquement nez à nez avec le premier cadavre récent que j'eusse vu de ma vie. Mon visage passa à quelques centimètres du sien. Mon regard rencontra son effrayant regard vitreux. Ma main toucha sa main glacée, assombrie par le sang qui s'était glacé dans ses veines. Il me sembla que ce mort, dans ce court tête-à-tête qu'il m'imposait, me reprochait sa mort et me menaçait de sa vengeance. Cette impression est l'une des plus horribles que j'ai rapportées du front. Mais ce mort était comme le gardien d'un royaume des morts. Ce premier cadavre français précédait des centaines de cadavres français. La tranchée en était pleine. Nous débouchions dans nos anciennes premières lignes, d'où était partie notre attaque de la veille. Des cadavres dans toutes les postures, ayant subi toutes les mutilations, tous les déchirements et tous les supplices. Des cadavres entiers, sereins et corrects comme des saints de chasse. Des cadavres intacts, sans traces de blessures. Des cadavres barbouillés de sang, souillés et comme jetés à la curée de bêtes immondes. Des cadavres calmes, résignés, sans importance. Des cadavres terrifiants d'êtres qui s'étaient refusés à mourir. Ceux-là, furieux, dressés, bombés, hagards, qui réclamaient la justice et qui maudissaient. Pour échapper à tant d'horreurs, je regardais la plaine. Horreur nouvelle, pire, la plaine était bleue. La plaine était couverte des nôtres, mitraillée, butée, le visage contre terre. Les fesses en l'air, indécents, grotesques comme des pantins, pitoyables comme des hommes, hélas. Des chants de héros, des chargements pour les nocturnes tombereaux.
Qu'est-ce qu'ils ont pris ?
Qu'est-ce que nous allons prendre ?
J'aperçus de loin le profil d'un petit homme barbu et chauve, assis sur une banquette de tir qui semblait rire. C'était le premier visage détendu, réconfortant que nous rencontrions. Et j'allais vers lui avec reconnaissance, me demandant qu'a-t-il à rire de la sorte ? Il riait d'être mort. Il avait la tête tranchée très nettement par le milieu. En le dépassant, je découvris avec un mouvement de recul qu'il manquait la moitié de ce visage hilar, l'autre profil. La tête était complètement vide. La cervelle qui avait roulé d'un bloc était posée bien proprement à côté de lui, comme une pièce chez le tripier, près de sa main qui la désignait. Cette farce atteignit au comble de l'horreur lorsqu'un des nôtres poussa un cri étranglé et nous bouscula sauvagement pour fuir.
Oh ! Qu'est-ce qui te prend ? Je crois que c'est mon frère. Regarde-le de près, mon Dieu ! J'ose pas.
Je rencontrai Bertrand, qui appartenait à une autre unité.
C'est ça ? La guerre ?
Qu'est-ce qu'on fait là ?
C'était « La peur » de Gabriel Chevalier, scène mémorable. Deuxième épisode, avec Stanislas Perrin, Jean d'Artemont, Baptiste Dezers, Bertrand, Zachary Laurent, un caporal, Simon Larvaron, un sergent, et les voix de Théo Combilemaître, Jean-Charles Delhomme, Loïc Ourcastagnou, Johan Proust, Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Réalisation, Michel Sidoroff.